Et nous allons passer à l'autre article. Après, je crois en Dieu le Père. Donc, la question de Dieu le Père. Le début du credo commence par quelque chose qui est central, c'est l'affirmation de la Trinité. Avant de commencer à lire un peu, l'affirmation de la Trinité. Donc on va voir Dieu le Père, Dieu le Fils, je crois en Jésus-Christ, je crois en l'Esprit Saint. Donc c'est intéressant de se dire que d'abord, notre foi, c'est une foi trinitaire. C'est une foi trinitaire, c'est-à-dire que nous croyons en un Dieu unique, mais nous ne croyons pas en un Dieu solitaire. C'est pas tout à fait pareil que, de ce point de vue-là, que les autres religions monothéistes. Hein, judaïsme et islam, qui sont très proches les deux, par beaucoup d'aspects du reste, croient en un Dieu, mais en un Dieu solitaire, c'est-à-dire quelque part un Dieu un compact, comme une boule compacte qui serait au-dessus de nos têtes, mais dans laquelle, qui serait peut-être capable d'amour lui-même envers les êtres humains, mais qui en lui-même n'est pas circulation d'amour. Or, nous croyons en un Dieu Trinité qui, en lui-même, est communion d'amour. Père, Fils et Esprit Saint. Ça, c'est une révélation. Ça, c'est Jésus qui nous le révèle. Seuls les chrétiens croient ça. Alors, c'est un mystère. Donc, on va voir aujourd'hui la question du Père. Mais c'est un mystère qui, pour nous, est, comme les mystères de notre foi, nous dépasse. Pourquoi ? Parce que, à la fois, on dit, ben voilà, chaque personne divine représente là. C'est pas un fromage réparti en trois. C'est que chaque personne divine est la totalité de Dieu. Hein? Et chaque personne divine agit en communion avec les autres. Hein? C'est ce qu'on appelle les missions trinitaires, c'est-à-dire que ce que fait le Fils aussi concerne le Père et concerne l'Esprit Saint. C'est pas, bah, toi, Père, tu es créateur. Alors moi, Esprit Saint, j'ai rien à voir dans la création. La preuve, c'est qu'on verra lors de la création. Je sais pas si on le verra aujourd'hui, mais au commencement, qu'est-ce que dit l'Écriture? Au commencement, l'Esprit planait sur les eaux. Donc, toute action de Dieu est trinitaire. Hein, si on voit par rapport à la création, Dieu créa le ciel et la terre, et Dieu dit, c'est-à-dire le verbe, c'est Jésus. Donc c'est le Fils. Et Dieu dit, et ensuite l'Esprit planait sur les eaux. Donc comme ça, c'est important que nous soyons, parce que on commence au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, de façon un peu machinale, mais toute œuvre est une œuvre trinitaire. Toute œuvre implique les trois personnes divines que Jésus nous a fait connaître, parce qu'il a fallu la venue de Jésus pour nous faire connaître. L'amour du Père, on le connaissait déjà dans l'Ancien Testament, mais clairement, la personne du Fils, en Jésus, le Fils qui a pris notre humanité, et la personne du Saint-Esprit, ce sont des personnes divines. Ça aussi, c'est très intéressant. Hein, ce sont des personnes divines. Il y a une relation personnelle. Alors, posez-vous la question, où est-ce que j'en suis de la relation personnelle avec chaque personne de la Trinité ? Est-ce que quand je prie, je m'adresse au Père ? Est-ce que quand je prie, je m'adresse plutôt à Jésus ou au Saint-Esprit ? Et on peut voir dans notre vie spirituelle une évolution. Hein, une évolution dans le sens où il y a des moments où on est plus tourné vers le Père, la personne de Jésus, ou alors et la personne de l'Esprit-Saint, plus d'importance. Hein, on voit bien, par exemple, c'est un peu grâce au mouvement pentecôtiste américain, puis ensuite au mouvement charismatique en France, puis en Europe, voilà, qu'on a comme repris conscience, non pas qu'on a, il n'existait pas avant, mais on a repris conscience du rôle du Saint-Esprit. Hein, qui fait partie de notre foi. C'était toujours intéressant, posez-vous la question, par exemple, on ne va pas le faire maintenant, en quoi l'Eucharistie est trinitaire ? Et si vous regardez, certains d'entre vous sont abonnés à Magnificat, nous prions en église, et donc du coup, vous avez les prières eucharistiques, vous les décortiquez, on fait ça au séminaire, hein, on voit le Père, ensuite le Fils. Du coup, voilà, c'est intéressant de dire que tout part d'une communion d'amour, et nous sommes à l'image et à la ressemblance d'une communion d'amour. Et ça, c'est quand même très différent des autres religions monothéistes. Ça, c'est... C'est pas pour rien que la religion chrétienne, c'est comme ceux qui ne sont pas chrétiens disent, c'est la religion de l'amour. Parce qu'on est à l'image, à la ressemblance d'une communion d'amour. Alors déjà, on en trouve les signes dans l'Ancien Testament. Faisons l'homme à notre image et ressemblance. Hein, cette première personne du pluriel, qui est assez mystérieuse. Alors bien sûr, les pères de l'Église, quand ils ont médité là-dessus, ils ont déjà vu l'image de la Trinité. Donc c'est, voilà, juste pour dire qu'on rentre déjà dans cette dimension trinitaire, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, en même temps mystérieux, mais qui éclaire notre vie. C'est-à-dire la Trinité, la communion, la circulation d'amour de la Trinité, hein, le Père se donne dans le Fils se donne au Père, et cet amour du Père et du Fils, c'est cette personne du Saint-Esprit qui nous est envoyée, qui nous rappelle ce que le Fils a dit, c'est ce que dit Jésus, hein, l'Esprit Saint rappellera toutes choses. Bien voilà, c'est là-dedans qu'on a été créé. C'est pour ça qu'on est appelé au fond à un amour, parce qu'on a été à l'image d'un amour. On n'est pas à l'image d'un Dieu compact. On est à l'image d'un Dieu de relation. Et donc les relations trinitaires définissent aussi notre vocation. Même si ça nous paraît un peu loin, un peu peut-être théorique, mais ça définit. Et c'est Jésus qui... Il nous a fallu une révélation. On ne peut pas, sans révélation, et c'est-à-dire sans la personne de Jésus, accéder à la Trinité, découvrir la Trinité. Alors, je vous propose de lire tout simplement, ça c'est une introduction, les numéros du credo concernant le Père, un certain nombre de numéros. J'ai fait un peu un best-of, si j'ose dire, mais bon, sinon. Dans tous les attributs divins, seule la toute-puissance de Dieu est nommée dans le symbole. Donc, quand vous vous rappelez, on a vu les symboles. Oula, ça a explosé. Il faut éteindre le thermostat, voilà. Éteins le thermostat. Sophie, éteins le thermostat, voilà. Tu tournes. Le thermostat, tu le tournes vers zéro. Voilà. Sinon, ça va. Quoique si ça explose, on sera déjà dans la Trinité. On contemplera la Trinité face à face, qui sera tout à fait sympathique. On passera de la théorie à la pratique. Mais voilà, le symbole, vous vous rappelez, hein, on a vu ça, je vais pas reprendre à chaque fois les trucs, mais le symbole, c'est, on appelle le credo, hein, symbole, ça vous renvoie aussi à ce que vous avez vu, c'est sur le site aussi avec les symboles des apôtres, le symbole de Nicée-Constantinople, c'est le credo court et le credo long, voilà, c'est grosso modo, c'est les deux credos, les symboles. Donc, les attributs divins qui sont donnés à Dieu le Père, c'est la toute-puissance. La confesser est d'une grande portée dans notre vie. Nous croyons qu'elle est universelle, car Dieu a tout créé, régit tout et peut tout, aimante, car Dieu est notre Père, mystérieuse, car seule la foi peut discerner lorsqu'elle se déploie dans la faiblesse. Voilà. Cette toute-puissance de Dieu est pour nous... vraiment éclaire tout et une grande portée dans notre vie, dit le catéchisme. C'est vrai que la toute-puissance de Dieu. Et en même temps, cette toute-puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Et cette toute-puissance de Dieu, on ne l'abordera pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, sur la divine providence, cette toute-puissance de Dieu se manifeste dans le mal. Le mal. Mal. L'inverse du bien. Le mal. Donc du coup... c'est dans la faiblesse, hein, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Oui, cette toute-puissance de Dieu, elle se manifeste dans le mal. Vous m'entendez bien quand je parle, c'est bon, j'ai une voix puissante en général. Donc c'est intéressant de se dire où est-ce qu'on en est, surtout face aux épreuves, d'un Dieu tout-puissant. Parce qu'on se dit, quelque part, un Dieu tout-puissant, mais pourquoi est-ce qu'il laisse le mal agir s'il est tout-puissant, hein? Et ce sera le thème, et je vous laisse avec un suspense absolument insupportable, mais ce sera le thème de notre prochaine fois, c'est s'il est tout-puissant, pourquoi est-ce que le mal agit, hein? C'est la divine providence. Tout ce qu'il veut, il le fait. Psaume 115, 3. Les saintes écritures confesse à maintes reprises la puissance universelle de Dieu. Il est appelé le puissant de Jacob, le Seigneur des armées, le fort, le vaillant. Si Dieu est tout puissant au ciel et sur la terre, c'est qu'il les a faits. Rien ne lui est donc impossible et il dispose à son gré de son œuvre. Il est le Seigneur de l'univers dont il a établi l'ordre, qui lui demeure entièrement soumis et disponible. Il est le maître de l'histoire. Il gouverne les cœurs et les événements à son gré. Ta puissance est toujours à ton service et qui peut résister à la force de ton bras. Voilà, c'est là aussi, c'est une manière de dire cette puissance universelle de Dieu, cette, on dit ça aussi omnipotence, vous entendrez le mot, parce que, en fond, qui veut dire toute puissance. Hein. C'est absolument important de rappeler cette toute puissance de Dieu et qui est un attribut du Père. Hein. Cette toute puissance de Dieu, parce que justement, ça nous dit que le monde est d'abord dans les mains de Dieu. Hein, c'est ce qui est marqué. Il gouverne, il est le maître de l'histoire. Et ça, pour nous, c'est très important comme chrétiens de se dire que tout est dans les mains de Dieu, dans nos vies personnelles, mais aussi dans les grands bouleversements historiques, comme sont les guerres, par exemple, les famines, les épidémies, les grands bouleversements historiques. Il est le maître de l'histoire. Et parfois, je peux être tenté de nier ou de douter de la toute-puissance de Dieu, précisément lorsque je suis en contact avec le mal. Or, au cœur même, au tout début, justement, quand on parle du Père, est attribuée la toute-puissance. C'est-à-dire qu'il aura le dernier, le Père, le Fils vient tout son maître Père pour qu'il ait le dernier mot dans ma vie et dans l'histoire. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose à méditer. Ça peut paraître évident, vous l'avez appris, etc. Mais dans nos vies, où est-ce que j'en suis, particulièrement dans les épreuves, cette certitude que toute ma vie est dans les mains de Dieu et Dieu est le maître aussi de ma vie. Il est tout puissant dans ma vie. Tu as pitié de nous, de tous, parce que tu peux tout. Dieu est le Père Tout-Puissant. Sa paternité et sa puissance s'éclairent mutuellement. En effet, il montre sa toute-puissance paternelle par la manière dont il prend soin de nos besoins. Par l'adoption filiale qu'il nous donne, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles », dit le Seigneur Tout-Puissant. Enfin, par sa miséricorde infinie, puisqu'il montre sa puissance plus haut point en pardonnant librement les péchés. Vous avez, on peut peut-être même réouvrir le volet là, parce que vous avez peut-être prêté attention, mais en général on n'y prête pas attention, à l'oraison collecte du 26e dimanche du temps ordinaire. Cela est présent, j'imagine, en permanence dans vos esprits. Alors, c'est quoi déjà l'oraison collecte? L'oraison collecte, il faut déjà savoir ce que c'est. C'est pas, ça n'a rien à voir avec la collecte de la quête. C'est l'oraison, c'est après le Gloria, quand il y a un Gloria le dimanche, après le Gloria, le prêtre dit « Prions le Seigneur » et normalement, quand il fait bien son boulot, il prend un temps de silence. Et donc, il collecte toutes les intentions de l'Assemblée pour les offrir à Dieu le Père, par Jésus-Christ dans l'Esprit. Et la collecte, l'oraison collecte du 26e dimanche du temps ordinaire disait « Dieu qui manifeste ta toute puissance lorsque tu pardonnes et prends pitié. » Dieu qui manifeste ta toute puissance lorsque tu pardonnes et prends pitié. Et là, je trouve que c'est aussi beau de dire que cette toute-puissance de Dieu n'est pas une toute-puissance écrasante. Vous voyez, n'est pas une toute-puissance écrasante. Et donc, si vous pouvez libérer les chaises pour celles qui viennent d'arriver. N'est pas une toute-puissance écrasante, c'est une toute-puissance qui est aussi miséricorde. Et ça, je pense aussi dans l'éducation. et particulièrement dans le rôle des pères, qui sont chargés aussi de dire quelque chose du Père Céleste, eh bien, la toute-puissance... Bon, les pères sont des réalités humaines, bien sûr, mais les pères de famille, mais là, il y a une forme de force, etc., chez l'homme, mais il doit prendre l'utilisation de la force à la mesure dont Dieu prend l'utilisation de la force lorsque tu patientes et prends pitié. Et je trouve que c'est très beau de, tout de suite, la toute-puissance divine, voilà, elle est reliée à la miséricorde divine. Et de fait, dans les 3 années qui ont précédé la célébration du jubilé de l'année 2000, les 3 années, Père, Fils et Esprit Saint, et dans chaque année, donc 97, 98, 99, dans chaque année, il y a eu une méditation sur une des personnes divines. En 97, c'était le Père. Et le Père, ce qui a été retenu par... C'est un livre qui a été fait, qui est très intéressant, sur justement le Père. Et ce qui a été d'abord retenu du Père, c'est la miséricorde. Bien sûr, à travers l'expérience du Père, du Fils prodigue, du Père miséricordieux, mais c'est d'abord ce qui a été reconnu. C'est le Père est Père parce qu'il est miséricorde. Parce qu'il patiente et prend pitié. Il y a une toute-puissance, mais en même temps, cette toute-puissance, elle n'est pas écrasante. Elle n'est pas violente. Dans le numéro 271, la toute-puissance divine est nullement arbitraire. En Dieu, la puissance est l'essence, la volonté et l'intelligence, la sagesse et la justice sont une seule et même chose, de sorte que rien ne peut être dans la puissance divine qui ne puisse être aussi de la juste volonté de Dieu ou de sa sage intelligence. Ça, c'est du saint Thomas d'Aquin, donc c'est un peu plus philosophique. Mais voilà, cette toute-puissance de Dieu, c'est pas comme nous, où on voit les hommes de pouvoir, par exemple, qui où nous entourent ou nous dominent. Voilà, parfois, on voit que c'est entraîné par les passions, par la colère, par les excès d'autorité, les abus de pouvoir, etc., etc. C'est pas une puissance arbitraire. Hein, de voir qu'en Dieu, cette puissance est aussi juste. C'est une force qui est puissante, c'est qui est juste, et c'est une justice qui est forte. Et ça, je pense que d'allier force et justice, c'est en Dieu qu'il y a cet alliage de force et de justice. Et donc, du coup, pour nous, c'est intéressant de voir que rien ne peut être dans la puissance divine qui ne puisse être dans la juste volonté de Dieu ou dans sa sage intelligence. C'est ça. Attention, Dieu n'est pas homme. À la différence des mythologies qui ont voulu transposer, les mythologies païennes, dans la réalité invisible, ce qu'ils voyaient dans la réalité terrestre, là, il a fallu une révélation pour dire justement, Dieu est père, mais pas comme l'homme est père. Parce que comme l'homme peut s'énerver, peut aller à des accès de colère, des accès de violence, des accès de etc., etc., mais il est père d'une autre manière. C'est ce qu'on appelle, juste pour vous, votre culture générale, la théologie négative. On dit ce que Dieu n'est pas. Dieu est saint, mais pas comme la créature est sainte. Dieu est père, mais pas comme voilà, pour bien garder la part du mystère et de la transcendance. Ce n'est pas la théologie, vous entendrez pas, théologie négative. Donc, c'est intéressant de dire, voilà, il est père, mais d'une autre manière. Et là, il a fallu une révélation, déjà dans l'Ancien Testament, une révélation pour connaître ça, justement. Ça, c'est le monothéisme, de voir cette paternité de Dieu qui s'exerce quand il patiente et prend pitié. Le mystère de l'apparente impuissance de Dieu. La foi en Dieu, le Père Tout-Puissant, a peut-être été mise à l'épreuve par l'expérience du mal et de la souffrance. Parfois, Dieu peut sembler loin, absent, et incapable d'empêcher le mal. Or, Dieu le Père a révélé sa toute-puissance de la façon la plus mystérieuse, dans l'abaissement volontaire et dans la résurrection de son Fils, par lesquels il a vaincu le mal. Ainsi, le Christ crucifié est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. C'est dans la résurrection et dans l'exaltation du Christ que le Père a déployé la vigueur de sa force et manifesté quelle extraordinaire grandeur revêt sa puissance pour nous les croyants. Le mystère de l'apparence, apparente impuissance de Dieu. C'est quelque chose, c'est vrai, qui peut-être nous scandalise, mais en même temps, on affirme un Dieu tout-puissant, et en même temps, il y a comme eu un respect de la part de Dieu de la liberté aussi humaine. Justement, et cet abaissement, en Jésus, on voit Dieu qui accepte quelque part de se faire tout petit, hein, qui se fait tout petit, etc., qui veut même habiter. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Il y a un très beau chant comme ça. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Hein, toi, le tout petit, le serviteur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Mais voilà, il accepte de se faire tout petit. C'est cette puissance de Dieu qui se manifeste dans la faiblesse. Au fond, c'est ce qu'on appelle, d'un nom un peu savant, la kénose, avec un K. L'abaissement du Père dans le Fils. Voilà comment Dieu manifeste sa toute-puissance, dans la fragilité. Alors, c'est vrai que c'est typiquement, ça c'est le mystère, c'est le cœur du mystère chrétien. Ça c'est le cœur du mystère chrétien. Nous croyons en un Dieu à la fois tout-puissant, mais qui manifeste dans la fragilité du Fils, qui dit tout Dieu, qui dit tout le Père, hein, le Fils est la parole du Père, et il dit la totalité de ce qu'est le Père, qui me voit le Père, dit Jésus, mais dans cet abaissement-là, particulièrement dans la Passion, eh bien on voit la toute-puissance de Dieu qui se fait faiblesse. Et qui prend sur lui nos péchés. Monseigneur Léonard, qui est l'archevêque de Malines-Bruxelles, j'avais participé à une de ses conférences au JMJ à Madrid, une conférence m'avait beaucoup touché, il a écrit un livre, vous pourrez éventuellement, ça s'appelle « 10 raisons de croire », et il dit « Si nous croyons en un Dieu tout-puissant, mais qui ne se laisse pas atteindre par le mal et la souffrance, si nous avions une telle foi, quelque part, ça peut scandaliser. Ça peut scandaliser un Dieu qui est tout-puissant et en même temps qui reste indemne de nos souffrances et de nos blessures. Mais nous croyons en un Dieu qui a accepté de prendre sur lui, qui se laisse toucher par le mal. En Jésus-Christ. Il se laisse toucher par le mal. Et ça, c'est la petite Thérèse, hein. Car je veux un Dieu qui prenne ma nature, qui devienne mon frère et qui sache souffrir. Hein, moi si j'avais commis tous les crimes possibles, voilà, c'est moi si j'avais commis, et car je veux un Dieu, je crois à un moment donné, qui devienne mon frère, qui prenne ma nature, qui sache souffrir. Parce que c'est là où le mystère du mal, quelque part, face à la toute-puissance de Dieu, non pas trouve une réponse, mais il y a une compassion de Dieu avec la créature humaine, en Jésus-Christ. Et c'est capital, parce que sinon on peut perdre la foi. On peut perdre la foi face aux événements de notre vie, face aux événements du monde. On peut perdre la foi, mais que fait le bon Dieu là-dedans? Où est-ce qu'il était le bon Dieu alors? Ou qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour qu'il nous arrive ceci, qu'il nous arrive cela? Et parfois on se dit, mais il est tout puissant, t'es tout puissant ou t'es pas tout puissant? Et alors, les pauvres qui se font massacrer, là, en Irak, là, moi, j'y pense tous les jours, à cette ville là, qui a assaillie, etc. Bon, je me sens complètement impuissant, mais bon, par la prière, je les rejoins, je les fortifie, etc. Mais il faudrait faire autre chose que prier, à mon avis. Mais voilà, on se dit, mais la souffrance du juste. Et la toute-puissance de Dieu. Comment réconcilier les deux, si ce n'est en Jésus-Christ? Ça, c'est le cœur de notre foi. C'est le cœur de notre foi. C'est pas facile à croire, mais la contemplation de la personne de Jésus qui dit le Père, hein, on est toujours dans une dimension trinitaire, faut pas. Là on fait chapitre par chapitre parce que voilà, on va pas tout. Mais c'est toujours bien de faire qui dit le Père et le Saint-Esprit qui nous rappelle les paroles du Christ, eh bien nous aide à découvrir dans le mystère du mal aussi une expérience de la toute-puissance de Dieu. Que Dieu n'est pas absent de celui qui souffre. Il est absent du mal en tant que tel qui ne veut pas le mal, mais il n'est pas absent de celui, et particulièrement du juste, qui est opprimé. Nous le croyons parce que Jésus-Christ l'a vécu. Sinon, vous voyez, dans les autres religions monothéistes, sinon quoi? On dit, ben, c'est volonté de Dieu. Comment ils expliquent? C'est la volonté de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est pratiquement scandaleux. Je me rappelle comme ça avoir discuté, quand j'étais aumônier d'étudiants, j'étais visité le BTS, etc., dans une institution catholique, pour les inviter à participer à l'aumônerie, et j'ai discuté avec plusieurs jeunes filles qui étaient musulmanes, comme ça, etc. Et elles me demandent, est-ce que vous êtes révoltées contre Dieu? Je dis non. C'est pas trop mon style, je suis pas. Voilà, je pense pas. Peut-être une fois, ah, nous jamais. Bon. C'est volonté de Dieu. Il y a quoi devenir athée avec un truc comme ça? Tout est volonté de Dieu. Ben non. Il y a aussi la volonté des hommes. On va le voir dans la création. Justement, si j'ai pas la lumière du Christ, le mystère du mal est juste inaudible. Déjà avec la lumière du Christ, c'est pas simple, mais si j'ai pas la lumière du Christ, même la toute puissance de Dieu, c'est même inaudible, c'est même un scandale. Seule la foi peut adhérer aux voies mystérieuses de la toute puissance de Dieu. Ben oui. Cette foi se glorifie dans ses faiblesses afin d'attirer sur elle la puissance du Christ. De cette foi, la Vierge Marie est le suprême modèle, elle qui a cru que rien n'est impossible à Dieu et a pu magnifier le Seigneur. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Eh bien voilà, Marie a engendré par la foi, nous dira ensuite le pape Jean-Paul II, la Vierge Marie est là pour nous rappeler justement que cette puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse, dans cette faiblesse d'une jeune fille d'une quinzaine d'années, mais aussi dans la faiblesse de son fils, hein, au pied de la croix, elle était. Voilà, il y a une puissance de Dieu qui se manifeste au cœur même de la croix. Ça, c'est le mystère chrétien. Il y a une force de Dieu. Il y a une force des pauvres. Mais qui n'est pas la force du monde, ou la force de l'argent, ou des armes. C'est la force des petits. Rien n'est donc plus propre à affermir notre foi et notre espérance que la conviction profondément gravée dans nos âmes que rien n'est impossible à Dieu. car tout ce que le credo nous proposera ensuite à croire, les choses les plus grandes, les plus incompréhensibles, aussi bien que les plus élevées, au-dessus des lois ordinaires de la nature, dès que notre raison aura seulement l'idée de la toute-puissance divine, elle les admettra facilement et sans aucune hésitation. Donc ça c'est une citation pour le catéchisme de Trente. Et donc du coup, je pense que la toute-puissance de Dieu, quelque part, dans ce sens-là, nous aide aussi à accueillir et à faire mémoire de la toute-puissance de Dieu en Jésus-Christ. Et que par sa passion, par sa mort et sa résurrection, on voit la toute-puissance de Dieu à l'œuvre. Ensuite, le Créateur. Donc, premièrement, Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. On va voir d'abord le Créateur. Ça, c'est aussi très intéressant. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Car c'est avec ces paroles solennelles que commence l'Écriture sainte. Le symbole de la foi reprend ces paroles en confessant Dieu le Père Tout-Puissant comme le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous parlerons d'abord du Créateur, ensuite de sa création, ensuite de la chute du péché dont Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu nous relever. La création est le fondement de tous les desseins salvifiques de Dieu, le commencement de l'histoire du salut, qui culmine avec dans le Christ, inversement, le mystère du Christ, et la lumière décisive sur le mystère de la création. Il révèle la fin en vue de laquelle, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dès le commencement, Dieu avait en vue la gloire de la nouvelle création dans le Christ. Alors, ça c'est de la citation de saint Paul aux Romains. Premièrement, nous croyons en un monde qui est créé, qui a un début et qui aura une fin. Le monde visible aura un début et aura une fin. De ce fait-là, nous sommes tout à fait différents de la philosophie grecque qui croyait à l'éternité de la matière. Ça veut dire que pour les Grecs, c'est un monde qui est un temps qui est circulaire. Dans les religions asiatiques, avec la réincarnation, on retrouve un peu un temps circulaire. Nous croyons en un temps linéaire et en un temps fléché. Il y a un avant, et il y aura un début, il y a une fin. Une chose croire en la résurrection, une chose croire en la réincarnation. Ça n'a strictement rien à voir. Donc du coup, c'est intéressant de voir que le fait de Dieu créer le ciel et la terre, ça veut dire qu'il y a un début, il y aura aussi une fin de ce monde. Ce monde passe, la figure de ce monde passe. Donc ça donne aussi un rapport au temps qui est différent. Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais ça donne un rapport au temps qui est différent. Et au fond, là, ce que dit le texte, hein, c'est peut-être un peu compliqué, mais il dit, quelque part déjà dans la création, il y avait ce désir de Dieu de nous révéler le Christ. Déjà dans la création, alors les pères de l'Église emploient des métaphores en disant « Dieu a créé avec ses deux mains qui sont le Fils et l'Esprit Saint. Hein, » Dieu a créé avec sa parole qui est le Christ. Et Dieu dit. Comme une litanie qui est répétée à l'infini dans le premier récit de Genèse. Hein, donc c'est intéressant. Ça veut dire que déjà dans la création, à la fois il y a cette visée du Christ, hein, mais le Christ aussi vient éclairer toute la création. Vous avez peut-être entendu, lu cette parole de saint Paul, je pensais aux Galates, la création aspire à être sauvée. C'est très mystérieux comme parole. Mais ça veut dire aussi que pour nous, comme chrétiens, nous avons un regard sur la création. Alors on voit que l'écologie est tout à fait à la mode, etc., ça c'est très bien, Mais j'allais dire, la première écologie, c'est une écologie qui vient de la Bible. Parce que la personne humaine, l'homme et la femme, sont au sommet de la création, et donc sont responsables de la création, auront à répondre de la création. Donc ça veut dire qu'il y a toute une écologie à la fois humaine et divine qui fait que cette création-là, elle est à l'image, à la ressemblance de Dieu. Je peux découvrir déjà dans la création des traces de Dieu. Et c'est vrai que, peut-être ça vous est arrivé, dans des beaux paysages, dans des contemplations comme ça de la terre, etc. On voit des paysages qui sont absolument à couper le souffle. Mais on se dit, dans tout ça, il y a un ordre. Il y a un ordre dans la création. On voit que ça marche. Mais qui met le désordre? Ce n'est pas la création elle-même. On voit bien que c'est la personne humaine, par le désir de richesse, hein, le désir de la convoitise, au fond, des richesses, essentiellement, qui sème le désordre dans la création. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, c'est intéressant de voir que, je dis ça parce que l'écologie, sans s'en rendre compte, l'écologie rappelle qu'il y a un ordre dans la création. Mais s'il y a un ordre, comment il s'est mis l'ordre? C'est bien que quelqu'un l'y a mis. Ben, il s'est mis tout seul. Il s'est mis comme ça, par le fruit du hasard et de la nécessité. C'est ce que vous diront certains, très clairement, les personnes athées. Oui, c'est vrai, il y a un ordre. Mais en fait, voilà, c'est vrai que il y a des animaux faibles, il y a des animaux forts. Ben, du coup, c'est Darwin. Ben, les plus forts ont triomphé. Puis finalement, ça s'est fait comme ça. Le fait, même entre les cellules, etc. Ça c'est bon, mais nous croyons, c'est possible que ce soit. Mais nous croyons que en cela, même dans la matière, on distingue la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est à l'œuvre même dans la matière. Et donc dans la création, déjà, il y avait le dessein salvifique de Dieu, hein, c'est commence le salut, et de fait, ce n'est pas pour rien qu'on parle en Jésus d'une recréation. Jésus nous a sauvés, il nous recrée, on est créé à nouveau, spirituellement, par le baptême, mais on est recréé, parce qu'il y a eu une cassure à travers le péché originel. Une cassure dans la relation avec Dieu, et donc une cassure dans la relation de l'homme avec la création. L'homme avait, c'est ce qu'on appelle les dons préternaturels. Alors vous n'entendrez pas ça tout le temps. Dons préternaturels, c'est-à-dire les dons qu'avait la personne humaine avant le péché originel. Il y avait des dons de connaissance, parce qu'il était en lien avec Dieu, de comment fonctionnait la création. De contact avec les animaux, de contact avec la terre, qu'on retrouve par exemple dans l'histoire de certains saints. Hein, bon, on connaît le miracle des loups de saint François d'Assise. Mais nous, on a perdu tout à fait, en plus dans une société hyper industrialisée comme la nôtre, on a perdu tout à fait ce sens du contact avec la nature, ce sens de lien. En Dieu, l'homme et la femme avaient une connaissance de la nature qui faisait que les dangers propres de la nature, un tremblement de terre en tant que tel, c'est pas un danger. S'il y a personne, il y a plein de tas de tremblements de terre en Sibérie. Et comme il n'y a personne, ben, on n'en parle pas. Mais il y avait une connaissance justement des tremblements de terre, une connaissance des tsunamis, une connaissance de la nature. Comme par exemple les animaux ont une certaine connaissance de la nature qu'on n'a plus. Donc, tous les animaux, au moment du grand tsunami en Thaïlande, tous les animaux sont partis. Et ils ont déjà senti que ça arrivait. Il n'y a eu aucun animal mort, tous ceux qui étaient enchaînés ou en... Voilà, mais ils sont tous partis. Parce que il y avait déjà, il ressentait dans la sensibilité, nous on a une intelligence, mais il ressentait dans la sensibilité le danger. Et c'est ce qu'on appelle les dons prêts. C'est qu'on ressent dans notre, on n'a pas idée de ça parce qu'on est tellement coupé de la nature, mais on ressent dans notre, on ressentait avant le péché originel, dans notre intelligence, une conscience, un lien avec la nature. Un lien de connaissance avec la nature. avec les animaux, avec le cosmos. Et c'est vrai que ça, ben, ça nous a été enlevé de phare, la chute originelle. Donc, c'est intéressant de voir que là, de fait, il y a déjà il y a un dessein salvifique dans la création. Le Seigneur veut nous sauver et veut se donner. Il y a une connaissance de Dieu le Père à travers la contemplation de la création. C'est pour cela que les lectures de la nuit pascale, célébration de la création nouvelle dans le Christ, commencent par le récit de la création. De même, dans la liturgie byzantine, le récit de la création constitue toujours la première lecture de la vigile des grandes fêtes du Seigneur. Selon le témoignage des anciens, l'instruction des catéchumènes pour le baptême suit le même chemin. Voilà. On fait d'abord, quand on fait un premier cheminement, on commence par Dieu qui crée et qui nous recrée en son Fils.